concernant l'eau. L'eau ne doit être en aucune façon être privatisée. Moi, ce qui m'interpelle quelque part, c'est que les politiques, surtout les maires des grandes villes, ont vendu leur âme au diable. C'est-à-dire que, oui, on s'aperçoit que souvent, c'est dans les grandes villes que l'eau a été privatisée. Et c'est vrai que c'est quand même relativement choquant. C'est le libéralisme à outrance, c'est faire du fric sur la plupart des gens, quoi, sur la masse, quoi, sur le peuple. Et c'est révoltant, il n'y a pas d'autre mot. Bon, bah, bon courage.
Daniel, je téléphone de Quimper. J'appartiens à l'association des habitants du Braden. Ça fait 2 ans que nous sommes en combat contre la Compagnie Générale des Eaux. Nous sommes donc parfaitement intéressés par ton émission. Non seulement intéressés, mais nous avions même invité, il y a donc un certain nombre de mois, Marc Lémé, donc pour une réunion publique à Quimper. Ce combat, donc, il y a eu des éclatements donc dus à des surpressions. Nous avons tellement, fait pression, c'est le cas de le dire, sur le maire de Quimper, qu'il s'était résolu à nommer un expert. Le rapport d'expert, pourtant nommé par le maire, atteste donc qu'il y a eu des surpressions qui ont endommagé des installations privées. Il y a eu 3 fois plus d'éclatements de tuyaux dans notre quartier. Bref, le maire, par contre, ne veut pas chatouiller la CGE. Pourtant, c'est parfaitement avéré. Donc, nous avons une action continue, permanente. La dernière action, donc, c'était en conseil municipal. Nous avions expédié une lettre ouverte. Monsieur le maire reste droit dans ses bottes. C'est-à-dire, plusieurs articles du règlement de service n'ont pas été appliqués. Alors qu'il y a un article 49 qui dit que le maire se doit de veiller à la bonne exécution du contrat de service. Bref, le combat continue. Et je pense que cela va déboucher sur une action en justice. Action contre le maire, vraisemblablement, au tribunal administratif, et action, bien sûr, contre la CGE.
Oui, Bernard, hier, je suis étonné de ce qui se dit sur l'eau. Je ne défends pas les sociétés d'eau, mais il me semble que dans un contrat, il y a 2 partenaires dans le contrat. Donc je pense que ce qui est plutôt critiqué, ce sont les politiques qui négocient mal un contrat. Le contrat, il existe dans plein de services, en informatique, un peu partout. Et il faut se donner les moyens, tout fait une délégation, de contrôler ce qui se passe, de renégocier régulièrement. Il semblerait que malgré tout, les sociétés privées gèrent mieux que les sociétés municipales. C'est qu'un problème de négociation et de renégociation de contrat. Si le contrat n'est pas assez intéressant, entre parenthèses, pour les sociétés privées, elles ne le prendront pas. Le service public restera dans le public. Voilà, bon, au revoir.
Je fais partie des auditeurs qui ont du mal à t'écouter à la nouvelle heure. Donc je viens de l'apprendre maintenant. Je te livre une petite bombe. Tu en fais ce que tu veux. Suite à un conflit sur l'eau, sur la flotte avec notre propriétaire sur Paris dans les années 90, en 93 plus exactement, on a eu accès par le syndic à 10 années de 11 années exactement de factures de flotte. De la compagnie des eaux de Paris, et toutes ces factures étaient surfacturées. Oui, 11 années de factures surfacturées par la compagnie des eaux de Paris. C'est facile à vérifier. À l'époque, j'ai demandé partout autour de moi aux amis de vérifier sur leurs factures. Elles étaient toutes aussi surfacturées sur la région parisienne et sur Paris. Ça allait de 20 centimes à 3 francs 60, puisqu'à l'époque, c'était des francs. Si ma mémoire est exacte, c'était un logiciel qui, de manière apparemment aléatoire, surfacturait de quelques francs ou quelques centimes toutes les factures. L'astuce étant que le total des charges soumises à TVA était juste. Mais quand on faisait le total des charges soumises à TVA et celles non soumises à TVA, il y avait au moins 12 ou 13 postes de factures. Le total était surfacturé, ne correspondait pas à la somme. Donc c'est un jeu assez facile. Si essayez de chercher dans vos cartons, de retrouver vos factures, pour ceux du moins qui sont dans la région parisienne, compagnie des eaux de Paris, c'est devenu, je vous le signale, la Vivendi, filiale de Vivendi. Voilà, c'est un dossier assez chaud, et puis c'est tout, hein, on peut se dire, yoyote le monsieur, mais j'invite chacun à aller vérifier, à plonger dans ses cartons. À bientôt, et encore bravo.
Allô, Michel Labassi, ici. Bon, je viens d'écouter un ancien gars de la CGT, là, qui vient de parler pour l'eau, là. Bon, mais j'aime pas trop cette façon de faire, parce que moi aussi, je suis un ancien représentant de la CGT, mais pas dans l'eau, hein. Mais je comprends pas trop sa façon de dire, parce que ce qu'il vient de dire au niveau des actions, c'est de Vivendi, c'est une grosse fumisterie. Il a dit, moi, je me rappelle avoir acheté des actions à 32,5 €. Elles sont montées à 45, je crois, et tout. Bon, c'est des gagnants. C'est vrai que quand est arrivé après, Messi, il a cassé la gueule. Les actions se sont cassées la gueule, mais ne sont jamais descendues à 8 €, comme il dit. C'est des bêtises, ce qu'il dit. Hein. Ils sont descendus dans les 16 ou 17. Et moi, quand elles sont remontées, je suis arrivé à les revendre au bout de, bien sûr, j'ai perdu 3 ans. Je suis arrivé à les revendre au niveau, avec 20% d'intérêt, quoi, à peu près, quoi. Bon, alors, bien sûr, c'est pas marrant. C'est vrai qu'il y a une esbrouffe, que je pense que Messi aurait dû être condamné à une dizaine d'années de tôle au lieu de demander du pognon. Mais enfin, il ne faut pas non plus, je trouve qu'il a été un petit peu trop mordant. Alors, enfin, critiquer dire c'est un grand syndicat à la CGT et puis essayer de massacrer les gens sans que personne ne puisse répondre, je trouve que c'est pas normal. Hein. Voilà, merci.
Et ça continue comme ça, sur le répondeur de la basse UGSFI. On ne pensait pas du tout que vous alliez réagir avec autant d'intérêt, de précision sur un sujet qui semble pas bien attirant. Comme ça, le problème de l'eau, eh ben, on s'était trompé. Ça vous intéresse, ça vous passionne et on découvre beaucoup de choses par les informations que vous nous donnez. Très nombreux sont les auditeurs un peu partout en France qui sont engagés, qui participent à ce qu'il faut bien appeler la guerre de l'eau. Le retour à la régie municipale, c'est-à-dire que l'eau redevienne un service public en France. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais enfin, ça semble être en marche à vous entendre et à en croire le reportage de François Ruffin. On se demande un peu pourquoi, tout au long de ces reportages, enfin, en les préparant, en écoutant, en appelant les uns et en parlant avec les uns et les autres, pourquoi est-ce que c'est, n'est-ce pas, un sujet que les politiques devraient traiter plus souvent, les syndicats bien évidemment, les médias? Eh bien, on aura des réponses à nouveau aujourd'hui, mais enfin, c'est tout simplement que les grandes compagnies d'eau, les grandes compagnies privées ont des moyens très très importants. Depuis longtemps, elles sont installées en France depuis le 19e siècle et elles ont des moyens très importants pour bien le contrôle des médias, ou bien elles passent d'importantes annonces dans les médias, et donc ça inspire des bémols, hein, dans les critiques. Concernant les politiques, et bon, on va voir à nouveau les complicités, combinages et concubinages divers et variés qui existent là aussi depuis fort longtemps, et puis les syndicats, il y a pas mal de choses à dire aussi de ce côté-là, si bien que c'est grâce, si on peut dire, au boulot des associations, des petites associations locales, têtues, et que les choses sont en train de changer et de faire basculer cette exception française qui est le contrôle privé d'un élément évidemment vital qu'est l'eau. Donc voilà, c'est notre sujet à nouveau aujourd'hui, et voilà encore d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse UGSFI au 01 56 40 37 37.
Je vous appelle Daniel Mermet au sujet de la bataille pour la question de l'eau. J'avais appelé il y a déjà quelques mois pour vous signaler cette forme intéressante de lutte qu'il y avait dans la vallée de Valorcine en Haute-Savoie, qui était pour la gratuité de l'eau. Parce qu'il y a une très ancienne tradition dans cette vallée de captage des sources et de distribution assurée par les gens, les habitants eux-mêmes, hameau par hameau. Et donc l'eau est gratuite, avec un travail en commun bénévole. Alors aujourd'hui vous dites municipalisation, ici... En fait, c'est la municipalité qui, avec l'aide de la préfecture et de la DAS, tente de mettre la main sur l'eau et de supprimer cette sorte d'autogestion qui fait que la vallée s'est dressée, qu'il y a des associations de défense. Donc vous voyez, la municipalisation n'est pas forcément la solution, ça n'est pas la panacée, c'est ce que j'avais appelé hier. Je crois que ce serait intéressant peut-être que vous preniez en considération ce qui se fait depuis des années ici pour essayer d'empêcher que, par l'entremise d'un maire qui est sans doute plus ou moins instrumenté par la Lyonnaise, il y ait une privatisation alors que l'eau actuellement est dans une gérée d'une forme, de façon autogestionnaire, qui est quand même intéressante, le but étant la gratuité de l'eau, puisqu'elle est comparée à l'air, comme vous l'avez dit.
Bonjour, pour toutes les personnes intéressées par la remunicipalisation de l'eau, il faut savoir que partout en France, des associations agissent dans ce but. Ces associations ont besoin de soutien humain et financier. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Alors rejoignez et adhérez à ces associations, investissez quelques heures et ou quelques euros pour gagner cette bataille de l'eau. Sur l'agglo de Rouen, prenez contact avec l'association Collectif pour une eau publique, Maison des associations et de la solidarité, 22 rue Dumont-d'Urville, 76 000 Rouen. Collectif pour une eau publique, Maison des associations et de la solidarité, 22 rue Dumont-d'Urville, 76 000 Rouen. Au revoir et à bientôt.
Je voudrais vous rappeler que M. Philippe Séguin, l'actuel président de la Cour des comptes, avait un jour préconisé de nationaliser l'eau en France. À l'époque, était-il maire d'Épinal ? Et il serait peut-être intéressant de savoir quel régime il avait adopté dans sa bonne ville. Merci et continuez. Au revoir.
Oui, bonjour, Christian Dorveil. Alors, j'interviens en ce qui concerne les deux émissions sur l'eau, où il y a une chose qui n'est pas exacte, qui a été annoncée à deux reprises, à savoir qu'aucun parti politique ou aucune organisation ne s'intéresserait à la re-socialisation de l'eau. C'est faux. C'est une contre-vérité importante qui me paraît importante de rectifier. Il y a en effet le collectif national pour un rassemblement anti-libéral de gauche et des candidatures communes, d'ailleurs, donc toute la gauche non PS, qui a un chapitre extrêmement précis dans le projet, chapitre numéro 45, de nouveaux services publics seront créés, où il est dit notamment « Nous créerons un pôle public de l'eau intégrant la recherche et la formation en la matière ». Il y a bien d'autres choses, bien sûr. Ça me paraît très important de signaler cette chose, parce que ça prouve aussi que même une émission comme Daniel Mermet, qu'on peut pas soupçonner d'être libéral, il y a des manques. Ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est de proposer peut-être une émission sur ce qu'on propose tous les gens qui sont pas nécessairement au PS et qui ont envie de réfléchir et de proposer quelque chose pour une vraie alternative. Voilà, ce serait intéressant de faire une ou deux émissions sur que sont ces gens qui réfléchissent pour proposer une autre société. Voilà, bonjour à toute l'équipe et à tous les AMG, au revoir. C'était Christian Derueil, au revoir.
Moi, je voudrais dire que je travaille pour Veolia, plus précisément pour Netraonix. Et bon, bah voilà, c'est des grandes multinationales. Et il faut savoir que dans ces grandes multinationales, notamment Veolia, Netraonix, les salaires sont très bas. Les syndicats, souvent, sont achetés. Il y a du copinage avec les chefs d'agence, notamment. Moi, je suis en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc. Donc, je peux dire que moi, je vis une réalité de salaire très bas. Par exemple, moi, je suis chauffeur depuis une dizaine d'années, on va dire. Et j'ai un salaire qui dépasse rarement les 1000 euros, 1100 euros de temps en temps, quand j'arrive à faire quelques heures supplémentaires. Voilà. Et moi, je veux dire aussi que les salariés, dans ces grandes multinationales, notamment, si je suis là, ils sont un peu des moutons. Hein. Pour moi, c'est des moutons salariés. C'est-à-dire que là, il y a de l'argent. On pourrait obtenir des augmentations de salaire. Notamment les avancées sociales, si on se mettait en grève, par exemple, ce qui n'est pas très difficile quand même dans ce genre de société, il y a du monde. Et quant au syndicat, là, qu'on a, là, comment représenter le syndicat dans cette agence du côté de Saint-Brieuc, bon, bah, c'est du copinage avec la direction, quoi. Et c'est-à-dire qu'il fait des accords avec les directions en passant au-dessus des salariés, quoi. Donc on obtient peanuts, quoi, on n'obtient rien, voilà. Bon, ben continue comme ça, Daniel, Jeannot de Saint-Brieuc. Allez, salut.
Oui, salut à tous. Pour ceux qui connaissent, cet été, de la colline, l'association et le groupe avaient organisé son festival des collines, comme d'habitude, dans le Var, et cette année, c'était à côté de Brignoles. Il se trouve qu'il y a eu une énorme pression policière, plus de 80 gendarmes tout autour du festival, et ça leur a plombé le festival. Alors, si vous souhaitez soutenir de la colline et le festival des collines, aujourd'hui, jeudi 26 octobre, au Canet des Morts, à la salle du recours, à partir de 20h, c'est le premier concert de soutien au Festival des Collines, parce que bien entendu, lorsque les flics ont saboté le festival cet été, il est resté un gros trou dans la caisse. Donc Canet des Morts, salle du recours, à partir de 20h, premier concert de soutien au Festival des Collines. Ciao, viva, portez-vous bien.
Ici le repère de la bassie, j'y suis, de Tonquédec, dans les Côtes d'Armor, dans le Trégor, près de Lannion. Pour rappeler aux gentils membres que le repère se tiendra ce soir à partir de 20h, où on va discuter des choses habituelles et inhabituelles d'ailleurs. Pour ceux qui veulent manger, parce qu'il y en a qui veulent manger, en général, merci de téléphoner pour prévenir au 06 85 93 88 66. Pour qu'on puisse préparer à manger. Voilà. Autrement, donc à 20h, le café de Bretagne, toujours route de Bullien, entre Tonquédec, entre les bourgs de Tonquédec et de Bullien. Et pour votre information, même s'il y a un panneau travaux, on peut pas passer, on peut passer quand même. Donc n'hésitez pas, venez nombreux. À ce soir.
Cher MG, n'oubliez surtout pas, demain à Vienne, tous au procès de Jean-Émile Sanchez. Toute la journée, amis, à demain, salut.
Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus souvent de cette histoire de l'eau, de cet empire de l'eau, comme vous dites? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas davantage?
Je pourrais vous répondre d'une façon lapidaire, parce que c'est sale et ça pue.
Est-ce qu'on fait payer l'air en France? Pas pour l'instant.
Donc là, vous avez une facture, mais c'est une facture municipale.
Ah oui, c'est la municipale. Alors maintenant, vous voyez, toute nouveau net, je paye que 50 euros.
Aux États-Unis, l'eau est une affaire municipale. Il n'y a pas d'eau privée aux États-Unis. Il ne me semble pas que les États-Unis soient un exemple de gauchisme exacerbé.
Donc vous avez divisé votre facture par 3, presque.
Ah oui, facilement. Facilement.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base ici, oui, avec François Ruffin, la bataille de l'eau.
Flight number 2, arriving from New
York. Est-ce qu'en payant ma facture d'eau, je contribue à alimenter les fonds, pas très transparents, des grands partis politiques français? Ah, c'est quand même une question. Eh bien, ils sont nombreux observateurs à répondre par l'affirmative. C'est là le fruit, disent-ils, du mariage depuis un siècle et demi entre des élus et trois groupes privés, les trois sœurs, comme on les appelle tendrement, c'est-à-dire Bouygues, c'est-à-dire Vivendi devenu Veolia, et Suez Lyonnaise des Eaux. Dans la corbeille, l'État a déposé des pans entiers du service public, l'eau, l'électricité, le traitement des ordures, le chauffage urbain, le téléphone mobile, la télévision, parfois les pompes funèbres, et suprême récompense, les travaux publics, les bâtiments et travaux publics. Ainsi, d'anciens hauts fonctionnaires sont placés aux commandes de ces entreprises. C'est une histoire ancienne, on l'a évoqué, qui remonte à Napoléon III, et on l'a dit et souligné, j'espère suffisamment, qu'il s'agit là d'une exception française, puisque dans la majorité, la quasi-totalité des pays dans le monde, l'eau est une affaire qui est publique, est une affaire qui est maîtrisée par les États et par la puissance publique. Ce n'est pas le cas en France. Mais aujourd'hui, ça commence à branler dans le Manche, les bénéfices stagnent et les consommateurs, on l'a entendu, on vient de l'entendre, commencent à se rebiffer quelque peu des élus, on en a vu, M. Drapier, par exemple, dans les Vosges, mais aussi bien d'autres plus célèbres, comme Henri Emmanueli, comme Laurent Fabius et d'autres, osent demander des comptes aux trois sœurs, aux trois majors, et se prononcent en faveur d'une gestion municipale de l'eau, qui est évidemment bien moins chère et plus transparente, puisqu'il n'y a plus ce mécanisme, cette situation de rente. La maîtrise de ces trois compagnies étant une situation de rente et rien d'autre. Alors voilà que les rois de l'eau perdent des contrats à Grenoble, à Cherbourg, à Bastia et ailleurs, dans des villes et des villages moins importants, comme dans la région des Landes, et tout ça au profit des régies municipales. Est-ce pour autant que le mouvement de remunicipalisation, de resocialisation, comme disait cet auditeur, est irréversible? Ce n'est pas tout à fait certain. En tout cas, ça vous passionne et ça nous a beaucoup intéressés. Aujourd'hui, on va s'intéresser, on a parlé de la connivence, du concubinage avec le monde politique, on a évoqué le concubinage et la complicité avec le monde des médias. Là, on va voir les méthodes d'une de ces entreprises avec le monde syndical. C'est jusqu'à 16h, c'est la basse édition.
Pauvre de nous, peuple si faible, mais où est donc passer la plèbe? N'y a-t-il plus que des bourgeois et qui désirent tout ce qu'ils voient? Il y en a plein qui achètent un moulon de 6 caves, des obligations et des actions à Paris-Bas. Un lingot ou deux cachés tout au fond de la cave, des Napoléons et puis encore je ne sais quoi. On rêve tous de cabriolets et de Mercedes et de posséder une belle et grande villa, pleine de champagne et de superbes gonzesses, habillées par Chanel, Dior et puis Chantal Thomas. Pleine de seins, pleine de fesses, et qui ressemble à Pamela. On voudrait tous être Bill Gates, et Bill Clinton, et Monica. Quand vient le samedi, à tous les coups, c'est la grand-messe, de la consommation au supermarché de son choix. On fait des achats, mais quand on arrive à la caisse, malheureusement, on fait souvent des chèques en bois. Les riches sans vergogne augmentent leur richesse, toi pauvre couillon, tu ne t'en aperçois pas. Les politiciens sont à l'aise pour magouiller à tour de bras. Et c'est toujours le plus balèze qui du faible brise les doigts.
Là, on passe devant, sur le bord de la route, il y a un gros panneau Veolia Eau. Et là, il y a des gens qui sont en train de faire des travaux.
Oui, ce sont des salariés que je connais puisqu'ils travaillent sur l'agence de Rennes. Il faut savoir que le contrat de Rennes, délégation de service public d'eau, a été renouvelé par le maire en 2004 à la Compagnie Générale des Eaux. Et cette société gère la distribution de l'eau sur Rennes depuis maintenant plus d'un siècle, en quasi-monopole. Le premier contrat avec la Compagnie Générale des Eaux à Rennes, il devait être en 1905 ou 1906. C'est dire l'implantation de la Compagnie Générale des Eaux et les liens qu'elle a pu tisser avec, bien sûr, les hommes politiques en place.
Alors, il a une quarantaine d'années, il s'appelle Christophe Montgermont, on est à Rennes, vous l'avez compris, et il est entré dans cette noble entreprise dans le milieu des années 80, Christophe. Et il s'est syndiqué. Il s'est syndiqué à la fin des années 80, il est rentré dans un syndicat, le syndicat FO. Il travaillait au service de la paye. Il travaillait parce que il y a 2 ans, il s'est fait virer. Il a été licencié. C'était plus Vivendi, c'était Veolia. Mais il a été viré, Christophe. Responsable syndical, on pourrait presque dire leader. Et aujourd'hui, il affirme avoir subi des pressions, d'abord par le charme, et puis ensuite, de façon un petit peu plus musclée, on est passé de la carotte au bâton. Pour l'instant, c'est la carotte. Christophe Montgermont, syndicaliste.
Là, sur notre gauche, il y a encore un panneau Général des Eaux améliore le réseau pour un meilleur service dans votre quartier. Merci de votre compréhension. Veolia. Il y a des panneaux Veolia là. Sur toute la rue qu'on a traversée, il y avait des panneaux Veolia.
Oui, on s'est aperçu que depuis quelques temps, avec l'image très dégradée qu'avait le groupe Veolia, ils se sont lancés dans une politique de communication où ils affichent le nom, groupe Veolia Environnement. Et non seulement il y a une politique de communication sur les travaux, mais aussi dans les journaux, puisque si on prend Ouest France, qui est le journal local, il y a des pages complètes de publicité du groupe Veolia avec, j'allais dire, ça me fait un peu sourire, quand on regarde leur publicité, c'est comme si si le soleil brille, c'est grâce à eux, et si on respire de l'air pur, c'est grâce à eux.
Et il y a d'autres contrats avec le groupe Veolia ici, dans les services publics?
Alors, ce qui se passe sur Rennes, c'est un peu ce qui se passe avec le groupe Veolia dans j'allais dire, toutes les grosses villes où ils ont le contrat de délégation d'eau, puisque ils s'implantent sur les différents services publics. Alors, il y a bien sûr les ordures ménagères avec la société Netronix, et ensuite, à travers toutes leurs filiales qui ont, j'allais dire, qui sont un peu des paravents du groupe, et puisqu'ils ne portent pas le nom de Veolia, on a par exemple la Sarp. Dernièrement, le groupe Veolia vient de racheter une société qui s'appelait TIV, Transport Ille-et-Vilaine, je crois. Et c'est une société de car, hein, de transport. Donc là, on arrive, vous voyez les bâtiments qui sont là, parce que là, on ne va pas pouvoir rentrer par sens interdit. Mais le bâtiment qui est là, donc, regardez, on voit encore les marques Compagnie Générale des Eaux, qui ont été effacées.
C'est écrit quoi en dessous?
Région Ouest. Voilà le premier bâtiment dans lequel j'ai travaillé pour la Compagnie Générale des Eaux en 1984. Et mon bureau se situait donc au premier étage, où vous voyez le balcon là. Et là, j'ai travaillé à côté de monsieur Pierre Victoria.
C'était où son bureau à monsieur Victoria?
Il était au deuxième étage de ce bâtiment-là.
De ce bâtiment-ci, là?
Oui, ici. Oui, au siège de la direction régionale. Un homme, par ailleurs, très sympathique. Mais qui il a dû avoir un mandat de député, des responsabilités au sein du conseil régional, et il a toujours été un membre actif du Parti Socialiste, et qui exerçait en même temps une mission au sein de la Générale des Eaux. Et j'avais déjà fait la remarque que finalement c'était quelqu'un qui était payé autour de 40 000 francs à l'époque par mois, pour un temps de présence à peu près de 2 jours par mois à la Compagnie Générale des Eaux. Et je m'interrogeais sur l'incompatibilité de son mandat d'homme politique avec sa mission qui était dévolue au sein de la Compagnie Générale des Eaux, c'était de prospecter pour développer les contrats de la Compagnie Générale des Eaux. Sa mission, c'était ça.
Et là, en étant élu socialiste en Bretagne, son carnet d'adresses pouvait l'aider à trouver des contrats pour la Générale des Eaux?
Bon, je crois qu'on n'invente pas l'eau chaude. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que monsieur Victoria. Hein. Tous ceux qui ont été embauchés à droite comme à gauche au sein de la Générale des Eaux, y compris dernièrement sur Rennes, eh bien, ce sont des gens qui ont été embauchés pour leur carnet d'adresse, c'est évident.
Vous ne nous voyez peut-être pas, mais Veolia Environnement, ce sont 300 000 personnes qui gèrent l'eau, l'énergie, les transports et la propreté. Veolia, l'environnement est un défi industriel.
Vous ne nous voyez peut-être pas. Ben oui, c'est. On ne voit pas pourquoi, on ne vous voit pas. Alors, il y a ceux qui ne vous voient pas, mais il y a ceux qui vous voient très bien. Christophe Montgermont, c'est son cas, ça a été son cas lorsqu'il était employé avant de se faire licencier, alors qu'il était à son syndicat, syndicaliste. Et puis, quelqu'un qui voit bien, c'est Ivan Stefanovic. Ivan Stefanovic, il est écrivain, il a fait une longue enquête, il est journaliste aussi, publiée chez Ramsay l'an passé, qui s'appelle « L'Empire de l'eau, Suez, Bouygues et Vivendi, argent, politique et goût du secret ». Vous ne le voyez peut-être pas, ben voilà, c'est le goût du secret, c'est effectivement ça. On a parlé de connivence, de concubinage, éclairage par Ivan Stefanovic.
ce concubinage, ce pacte, en quelque sorte, entre les maires, les hommes politiques d'un côté, et puis ces grandes compagnies d'eau, comment ça s'était passé?
Vous avez dit concubinage.
Ben, c'est concubinage. Quand vous avez, par exemple, comme M. Edmond Hervé, il est maire de Rennes, et vous voyez que toutes les villes de l'ouest de la France sont à la généralisation, enfin, qui est devenue Veolia. Donc, pourquoi? Rien quand vous parlez de Monsieur Monod, on ne parle pas de corruption, mais Monod était directeur de cabinet de Monsieur Jacques Chirac quand il était à Matignon de 74 à 75, à 76, il est aujourd'hui toujours dans l'ombre du président de la République. Et juste à l'époque où il arrive, pour vous donner une idée, quand la ville de Paris décide de privatiser l'eau, parce qu'avant c'était, il y avait simplement les factures qui étaient privatisées, c'est en 85, et comme par hasard, à l'époque, Monsieur Monod est PDG de la Lyon. Alors avant, il travaillait avec monsieur Chirac, c'était son bras droit. Donc, sans parler de corruption, parce que là, on va devant les tribunaux, etc.
On ne peut pas dire des choses pareilles.
On peut parler de connivence. C'est des gens qui se connaissent très bien. Et quand vous savez qu'au sein de Veolia, il y a des anciens responsables du PS qui ont des fonctions, par exemple Pierre Victoria, il y a monsieur Jean-Pierre Frémont qui est UDF et qui est directeur des collectivités publiques donc chez Veolia, qui est le supérieur de monsieur Victoria et qui est en même temps conseiller de Paris UDF. Madame Anne Hidalgo, qui est première adjointe au maire de Paris, a été en 96 et 97 numéro 2 de la direction des ressources humaines de Vivendi. C'est pas illégal, mais quand on voit le parachute en or qu'ont les hommes politiques et leurs collaborateurs au sein de ces sociétés, donc ces liens, il suffit de regarder, de lire, ils sont pas secrets et toujours légal. Il faut dire aussi que tout ce qu'ils font est légal. Ce n'est pas illégal que le PDG d'une grande compagnie d'eau et le président de la République aient travaillé ensemble.
Est-ce qu'on a un financement des partis? Est-ce que vous avez pu voir que par le truchement de ces grandes multinationales de l'eau, on pouvait détecter des financements
Alors, financement, je vous dirais, dans mon livre, je raconte comment Rousselet disait que les compagnies, chaque campagne électorale, il venait avec un envoyé de Monsieur de Joigny, venait avec une grosse valise où il y avait 5 millions de francs environ dans la valise.
Alors, racontez-nous ça.
Monsieur Rousselet, au départ, me donne un nom. Et il veut pas que je mette le nom. Enfin, on imagine que c'était le nom. Ce monsieur qui vient à l'état-major du Parti Socialiste, qui est à la Défense, et la valise est tellement lourde qu'il demande qu'on l'aide, parce qu'il est tout seul avec la valoche. Avec 5 millions, je sais plus si c'est 5 millions ou 3 millions. Bon, enfin, peu importe. Ça, c'est,
Qui viennent d'où et qui servent à quoi?
Ah ben, ils sont apportés, c'est la Compagnie Générale des Eaux, qui amène l'argent.
Mais
c'est
au Parti Socialiste?
Ah oui, à Mitterrand.
C'est sympathique, ça, au moins, c'est direct. C'est direct, mais c'est assez secret quand même. Alors, c'est du passé. Moins éloigné dans le temps, ce qui est arrivé à Christophe Montgermont, ce syndicaliste, je vous le rappelle, qui avait mis en cause le financement de certains syndicats par Vivendi.
Et quand est-ce que ça s'est gâté un peu les choses pour vous au sein de Veolia?
Ça a commencé à se gâter avec l'arrivée à Messier. Il considérait que les syndicats étaient très importants dans l'entreprise, c'est toujours ce qu'on dit quand on veut soit les avoir dans la poche ou les supprimer. C'est le bâton ou la carotte. La carotte, elle était constituée par des facilités de fonctionnement accordées à certains syndicalistes gentils. Donc, on ne contrôle pas leurs heures syndicales, on leur accorde des financements, on les a baladés.
On les a baladés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait?
Eh bien, on les convoquait, d'ailleurs ça me choquait, y compris lorsque je participais, hein, dans des hôtels qui étaient très 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 luxueux. Vous avez les petits blocs-notes au nom de l'hôtel, les petits gâteaux, le café, le jus d'orange à volonté, etc. L'état d'esprit, et ça a marché, de faire croire à ces gens-là qu'ils avaient une certaine hauteur, une certaine importance, et que effectivement, plus c'était luxueux, et bien plus on leur accordait quelque part de l'importance. Je me suis aperçu dès les premières réunions que lorsque je demandais le remboursement de mes frais de déplacement, donc moi quand j'étais de Rennes, j'avais grosso modo entre 300 et 350 francs de remboursement de frais, Et là, un représentant du personnel de Rennes m'a dit « Bah, écoute, tu m'accompagnes, je vais te dire comment ça se passe. » Elle m'a emmené dans un bureau au siège, hein, rue d'Anjou, donc là où étaient tous les grands directeurs. Alors moi, je donne mes billets de train, etc. Elle me dit « Non, non, on a besoin de rien. Bah, » je lui donne le justificatif de déplacement quand même. Enfin, dans toutes les sociétés, on rembourse sur pièce justificative. Et là, non, pas du tout. Pour un déplacement aller-retour, on nous payait 1260 francs en liquide. Donc on avait, par exemple, pour des gens du site, des sommes qui dépassaient les 2000 à 3000 francs pour la journée.
Donc c'est-à-dire que vous faisiez 1000 francs de bénéfices rien que sur les déplacements sur cette journée-là?
Oui, c'était de l'ordre de entre 800 et 1000 francs par jour de négociation.
En plus du salaire?
En plus du salaire, en liquide, sans déclaration aux impôts, etc. Bon, et donc moi ça m'a choqué. Et le représentant du personnel avec qui j'étais m'a dit « De toute façon, tu dis rien aux salariés, etc. etc. » Donc là, je suis tombé réellement le cul par terre et je me suis dit « C'est pas possible, quoi. C'est pas possible de continuer de fonctionner avec cette boîte de cette manière-là. » Et je suis intervenu auprès de la direction et en séance plénière.
Donc ça veut dire que les syndicalistes étaient quand même là, ils n'étaient pas menacés, ils étaient quand même très bien soignés.
Bah oui, et je peux vous dire qu'il nous a fallu quand même plus d'un an de bagarre avec la direction pour y mettre un terme. Et ensuite, moi je l'ai vécu puisque j'y étais confronté, les versements étaient toujours sans justificatif, mais c'était des virements bancaires qui étaient faits directement sur nos comptes bancaires.
Et vous, ça c'est... Pardon ?
On arrive devant le siège de la direction régionale. Donc là, on est à la périphérie de Rennes.
Là, tout le bâtiment, là, parce que ça fait à peu près 100 mètres de long jusque là-bas.
Bon, faut savoir que déjà, vous voyez tout le bâtiment là où il y a des sapins ? C'est un seul bureau et c'est le bureau du directeur régional. Et pour mémoire, il y a 2 ans, lorsqu'il a aménagé là, il a aménagé pour 140 000 euros de frais d'aménagement de son bureau. Donc vous voyez...
140 000 euros pour son bureau?
Oui.
1 million de francs?
Oui. C'est les frais de réaménagement de son bureau, mais auxquels se rajoutent les frais de mobilier. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ces gens qui assument des responsabilités au sein de ce groupe n'ont jamais créé quoi que ce soit comme un petit patron qui crée son entreprise. Et ils se servent comme si l'entreprise leur appartenait. Notamment, on avait dénoncé la location d'un bateau pour une journée à Brest, hein, dénoncé par Tract. La location du bateau la journée, c'était 100 000 euros pour faire une fête avec les élus. Ce sont des gens... Un directeur général a plus de 20 000 euros de rémunération avec véhicules de fonction, 2 véhicules de fonction, des frais exorbitants, les cigares, etc. Enfin,
20 000 euros par mois?
Oui, c'est la rémunération de M. Romestin il y a 2 ou 3 ans, alors peut-être
si maintenant. S'il était président du conseil régional ou président de conseil général, le fait qu'il est, ou même ministre, finalement, là, comme c'est le privé, c'est pas dénoncé?
Le problème, il est simple, c'est que quand vous allez attaquer des dépenses d'une société privée, on va vous dire que ça vous regarde pas.
J'ai surpris l'autre jour dans mon usine un ouvrier qui mettait dans le puits de sa machine pour s'amuser des trognons de choux, des clés de sardines, des vieux mégots, des ragrevés, des pots de bananes et de mandarines. Et je me disais tout indigné, c'est bien mon droit, rien ne m'empêchera de pousser 8 jours à ce garçon-là. Mais il était syndiqué, je ne sais comment vous expliquer, j'ai eu peur de provoquer la grève de tous mes ouvriers et par solidarité la grève de tout le corps de métier sur un mot de la CGT, la grève des mineurs, des terrassiers, puis viendraient les vitriers, rémouleurs, zingueurs, rosinetiers, épiciers, limonadiers, fumistes, pénistes, tapissiers. En pensant à tout ce truc-là, je me suis dit, mon vieux, restons-en là. Pour une petite machine comme ça, pour pas bâcher le prolétariat.
Voilà une petite chanson anti-syndicale signée d'un certain Fortuit. On continue ces éclairages quand même assez brutaux, parfois beaucoup de révélations quand même pour des gens comme moi qui ignoraient tout cela sur l'eau dans notre pays et cette bataille de l'eau. Éclairage d'Ivan Stefanovic, l'auteur de L'Empire de l'eau.
Quand vous voyez les syndicats, ils invoquent le service public, comme par exemple la CGT à Veolia, il faut voir le programme. Et moi, j'ai été revoir dans les journaux de la CGT, quand la CGT a été créée, c'est dans les années 1922, la position, ils sont pour un grand service national de l'eau. Mais les municipalisations, ils n'en parlent jamais. Alors le grand service national de l'eau, c'est le monstre du Loch Ness, quoi. C'est ça, ça leur permet de faire des revendications, mais qui ne veulent absolument rien dire. Mais la municipalisation, ils sont évidemment contre, pas dans les faits, ils n'en parlent pas. C'est un mensonge par omission, on ne peut pas leur reprocher. Mais ils ont des tas d'avantages chez Veolia, quoi. Ils ont des petits téléphones, SFR, ils ont des tas d'autres gadgets, des heures. On peut croire qu'ils ont accès à certaines façons de travailler assez libérales. Ils ont, je vous donnerai un autre exemple, c'est la SNCM, où maintenant, Veolia, pour l'instant, a 38% des parts sociales, la SNCM. Et bien là, vous voyez que la CGT, avec son dynamique leader à Marseille, qui était très, très, très opposé au départ à la venue de Veolia, et bien finalement, maintenant, il ne jure que par Veolia. Voilà, je n'en dis pas plus. Dans la vie ouvrière, oui, il y a eu des publicités pour Veolia.
Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus souvent de cette histoire de l'eau, de cet empire de l'eau, comme vous dites? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas davantage?
Je pourrais vous répondre d'une façon lapidaire, parce que c'est sale et ça pue. Quand on voit les pages entières de publicité extraordinaire qu'a fait la société Veolia, qui sont des très belles pages de publicité. C'est très bien, hein, avec les fleurs, cette multicolore.
C'est
page entière. Dans Le Monde, dans Le Figaro, même dans Libération, dans des journaux de province. Comment voulez-vous que ces journaux-là, avec des pages de publicité, Dieu sait si la presse court après, parlent de l'eau après? Si, on va parler...
Malgré le courage déontologique de nos confrères.
Si, on va parler des petits noirs, qu'il y a des millions d'enfants qui meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau, le droit à l'accès à l'eau. Dans une ONG, vous avez un ancien responsable qui s'appelle Caritas, qui s'occupe de l'eau, Monsieur Flicotto, qui est un ancien responsable de la Générale des Eaux. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont partout.
Vivendi, créez ce qui vous change la vie.
Voilà, oui, ça vous change la vie. Alors, on suit toujours notre syndicaliste, Christophe Montgermand. Je vous rappelle qu'il a été, il était rentré chez Vivendi, Veolia, devenu Veolia en 1984. Il a été viré il y a 2 ans. C'est en lien, selon lui, selon ce qu'il affirme, avec ses activités syndicales. Et il a subi, dit-il, des pressions. Alors, des pressions, vous avez vu, tout à fait charmantes. Et puis, puis à un moment, on est passé de la carotte au bâton.
Alors là, on est, vous voyez, sur le lieu de ma première agression.
Donc là, on est toujours, on est à quoi, 300 mètres du siège de Veolia?
À peu près, ouais.
C'est des petits pavillons tout autour. C'est une résidence de petits pavillons ici.
Oui. Et quand j'ai quitté le bâtiment, j'ai pris cette route et un véhicule m'a suivi. Il y avait 2 personnes à l'intérieur, donc moi j'ai continué à rouler normalement. La personne m'a fait 1 ou 2 appels de phare.
Mais vous aviez repéré que vous étiez suivi?
Oui. Oui, parce que le véhicule a démarré brusquement dès que je suis passé. Et donc déjà ça m'a un peu troublé parce qu'on était un soir et dans une zone où normalement c'est très tranquille, quoi. Donc j'ai la voiture qui démarre aussitôt, rapidement, qui fait des appels de phare derrière, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai continué ma route tranquillement, donc ils m'ont doublé à peu près un tout petit peu plus loin là, où est la Mercedes là. Ils m'ont doublé là. Et puis ils ont mis la voiture en travers. De la route.
En traverse, ils ont bloqué la route là à ce niveau-ci.
Oui, ils ont bloqué la route et les 2 personnes sont descendues de la voiture en venant d'une manière très agressive vers moi. Donc j'ai compris que c'était pas pour me demander ni mon âge ni ma carte d'identité. Donc là, je suis sorti de mon véhicule. Pas une parole, tout de suite ils sont venus pour m'agresser. Donc échange de coups de pied, coups de poing, etc. Donc j'ai réussi à me défendre.
Donc ils vous ont sorti par la force de la voiture?
Non, je suis sorti de la voiture parce que je les voyais arriver vers moi. Alors que je ne savais même pas pourquoi ils étaient là ni rien. Il n'y avait eu aucune altercation, mis à part qu'ils me bloquaient la route, quoi.
Moi, je ne serais pas sorti de ma voiture. Hein.
Peut-être c'est un mauvais réflexe, mais j'ai été blessé à l'arcade sourcilière et puis à la lèvre. Donc comme ma jeunesse, j'ai fait des sports de combat et karaté, j'étais ceinture marron et de la boxe, j'en ai fait pendant 4 ans. Et ça s'est assez mal passé pour eux. Donc ils sont, qu'il y en a un qui a été quand même apparemment touché parce que j'ai quand même réussi à le mettre à terre. Donc il s'est relevé et son copain est remonté au volant. Et ils sont partis comme une flèche.
Donc là vraiment le syndicalisme est un sport de combat pour vous.
Voilà. Donc ça c'était la première fois où j'ai été agressé.
Ils n'ont pas cherché à voler quelque chose dans votre voiture ?
Non, rien du tout. Non. Mais visiblement c'était une agression, enfin entre guillemets préméditée, puisque là il y avait absolument aucun fait qui pouvait les amener à bloquer mon véhicule. La deuxième fois que j'ai été agressé, c'est en revenant d'une réunion avec la direction à Paris. Je suis arrivé ici, il était 23h30. Mon véhicule était garé derrière la gare, et là on y va.
Depuis que vous êtes délégué syndical, il y a une hausse de l'insécurité à Rennes.
Dans ma vie, oui. Donc voilà où j'ai été agressé exactement. Donc j'ai aperçu deux personnes qui étaient sur la rue.
Et, de l'autre côté du trottoir.
Oui, de l'autre côté du trottoir. Et quand je suis monté dans mon véhicule, ils se sont précipités en courant vers moi. J'ai voulu m'enfermer dans mon véhicule, donc rester dans mon véhicule. Et là, j'ai une des personnes qui a essayé de me donner des coups de poing à travers la porte en essayant de me sortir du véhicule. J'ai réussi à fermer la porte et ensuite j'ai clenché. Donc là, une personne s'est mise en face du véhicule pour m'empêcher de démarrer. Donc j'ai quand
juste
même...
là, en face.
Ouais, en face du véhicule. Donc là, j'ai continué. J'ai pas arrêté le véhicule. Donc il s'est écarté. Et ensuite, j'ai pris mon téléphone portable et je me suis arrêté à 200 mètres et j'ai appelé la police qui m'a mis en relation avec la BAC. Comme ils étaient dans le secteur, ils sont intervenus quasiment aussitôt et ils les ont arrêtés à peu près à 500 mètres d'ici. Et là, les policiers m'ont dit, mais attendez, ce qui est étrange, c'est que ces gens-là n'ont aucune motivation pour vous agresser. Alors j'ai dit, ils voulaient peut-être voler mon véhicule, j'en sais rien. Et les flics m'ont dit, non, ce sont des gens qui avaient leur billet de train, ils venaient de Paris, et ils avaient leur billet de retour sur Paris. Donc ils me disent, c'est pas des gens qui... Alors j'ai dit, si c'est pas le véhicule, c'est quoi? Et ils m'ont dit, est-ce que vous avez des problèmes professionnels? Donc ils ont été arrêtés et condamnés à 8 mois de prison ferme. Mais c'est vrai que ça a fait peur à ma femme quand même. Parce qu'elle dit c'est la deuxième fois. Est-ce que la troisième, est-ce qu'il n'y aura pas une troisième? Est-ce que la troisième, ils ne seront pas grosso modo plus performants?
Et vous n'avez pas de bombe lacrymo ni rien du coup dans la voiture?
Non.
Voilà, effectivement, le syndicalisme peut devenir un sport de combat. Il faut peut-être préciser que Christophe Montgermont, qu'on écoute, a fait un procès. Il a gagné au prud'homme. Le jugement a été frappé d'appel. Il a gagné en appel, puis en cassation. Et aujourd'hui, il demande sa réintégration. D'autres précisions sur ces affaires et sur la régie municipale de l'eau par Ivan Stefanovic.
Une régie municipale n'a pas d'actionnaire. Donc à capacité égale aujourd'hui, et elles ont les capacités et les compétences. Donc une régie municipale, c'est les biens gérés, elle est forcément moins chère. Donc pourquoi les hommes politiques persistent à confier en majorité ça, les grands-mères, à des sociétés privées? Il y a des explications.
Alors allez-y.
L'explication, c'est d'abord la force de l'habitude, tout simplement. Mais je vous dis, les grandes sociétés d'eau en France, les trois, c'est-à-dire la SOR, la Générale des Eaux, qui s'appelle Veolia, et SUEZ Lyonnais, sont sur la défensive aujourd'hui. Mmh. Parce qu'il faut savoir quand même qu'elles ont perdu des gros contrats. Elles ont perdu la ville de Bastia et la ville de Cherbourg, qui est même de 100 000 habitants, et c'est une ville surtout PS. Or, Veolia, toutes les grandes municipalités de Veolia qu'elle a, ce sont antisocialistes. Donc c'est un signal d'alarme très très fort. De toute façon, Monsieur Proglio, le patron de Veolia, il est obsédé par les transports publics. Et quand on voit qu'en France, c'est l'un des trois grands transporteurs, puisqu'il y a des bus, il y a la SNCF, il y a la RATP et il y a Veolia.
Donc là-dessus, ils sont en train d'appliquer les mêmes méthodes, le même état d'esprit, les mêmes connivences, les mêmes concubinages, les mêmes pressions.
C'est-à-dire, le donneur d'ordre, c'est toujours le même, c'est l'élu. Mais je vous dis, dans l'eau, ils font, quand on discute avec eux, comme ça, off, dans l'eau, ils savent très bien que le temps est compté. Enfin, en France, à l'étranger, ils peuvent gagner beaucoup d'argent encore. Par exemple, Veolia, qui a 12 milliards d'endettement, environ, c'est très lourd, d'euros, et qui a fait le pari chinois. Parce qu'en Chine, qu'est-ce qu'ils retrouvent? Ils retrouvent un État fort, comme sous Napoléon III. Donc on peut appliquer le capitalisme de rente.
À venir aussi, si vous pouvez rester avec nous, 7h40, Veolia. Veolia en Chine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, 10 millions de Chinois sont desservis par Veolia, qui est en train d'étendre là-bas son empire. C'est quand même très intéressant parce que c'est une forme de luxe, mais en même temps, l'eau, ça reste stratégique. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là avec les Chinois? On va voir ça dans le détail. Bon réveil à vous, belle journée.
Tous ces bâtiments-là sont le siège de Veolia.
Donc c'est un immeuble haussmannien sur 3 étages. Quoi.
Tout en haut, vous aviez les anciens bureaux de Jean-Marie Messier.
Oui, c'est lui, c'est Christophe.
Donc ici, vous avez Stéphane Conan, qui est donc le représentant syndical de FO, qui a été licencié. Alain Bonnet, qui est secrétaire adjoint et qui a été aussi licencié en 2004. Sylvie, qui est ma secrétaire, donc licenciée aussi, permanente au syndicat. Patricia Grégory, secrétaire aussi au niveau de la banlieue de Paris et licenciée aussi par le groupe Veolia. Et voilà, donc avec moi.
Donc là, le chômage, il baisse pas à Veolia, là.
Enfin, vous avez dans le bureau la tête du syndicat.
Bon, moi, j'étais en région Normandie, mais j'étais surtout aussi investi à la sécurité, au CHSCT. Ça veut dire, on va sur des sites, alors ça peut être une station d'eau potable, ça peut être un site d'épuration, ça peut être une agence.
C'est-à-dire, et qu'est-ce que vous avez découvert lors de vos déplacements sur le terrain?
On a eu des problèmes de légionnelles sur la station de Dieppe. Et alors on avait appelé les organismes nécessaires pour informer qu'on avait ce problème de légionnelles. Et la générale des eaux a vidé la cuve. Ça veut dire qu'elle a mis tout dans le ruisseau qui passe derrière. Et ça veut dire que on n'a plus de preuves, plus rien. Quoi. On n'a pas fait une vraie analyse. Et ça, c'est typique. Radioactivité aussi dans les boues, sur Caen. Alors, il y a tout ça qui fait que ça a amené à ce que Stéphane Conan soit licencié parce que je gênais. Voilà.
Parce que vous éleviez souvent la voix sur ces problèmes-là?
Ah, en permanence. On en était arrivé pratiquement à du quotidien sur la sécurité. Tellement les chefs d'agence mettaient le frein à pas le faire parce que ça tapait dans leur budget, quoi. Ils étaient clairs, ils exprimaient clairement qu'ils n'avaient pas de budget pour la sécurité au démarrage, c'était pas prévu. Alors on disait, il n'y a pas de budget.
Et vous avez été licencié quand alors?
Alors moi j'ai été licencié en mai 2004. L'inspection du travail, clairement, elle a motivé que le licenciement n'était pas fondé. Que mon engagement sur la sécurité était un motif pour me conserver dans l'entreprise. Il y a eu un très très bon rapport de l'inspection du travail pour moi. Hein, je suis content de voir qu'il l'ait jugé comme ça, quoi, et qu'il n'acceptait pas mon licenciement. Par contre, bon, clairement, politiquement, ça, il n'y a pas eu de problème pour me licencier, quoi. Là, politiquement, ça a été très vite. Hein.
C'est-à-dire?
Ça veut dire que le ministre, il a accordé mon licenciement aussitôt, quoi. Je veux dire.
Donc, c'est-à-dire que l'inspection du travail locale voulait pas vous licencier,
non.
Et donc on a envoyé ça, on a demandé directement. C'était qui le ministre?
C'est Barlow.
Mais c'est signé de qui?
N'importe comment, c'est unanime. Pour nous cinq, à chaque fois. Les enquêtes des inspections du travail n'ont pas donné l'autorisation de nous licencier. À chaque fois, donc, la direction de Veolia, Compagnie Générale des Eaux, a exercé un recours devant le ministère du Travail et de la Cohésion Sociale. Et à chaque fois, le ministère de la Cohésion Sociale et du Travail a cassé les décisions de leur propre service, en fin de compte, hein, des inspecteurs du travail, et autorisé le licenciement. Et derrière ça, la direction de la société nous a licenciés dans les 48 heures qui suivaient, quoi.
Donc le ministre de la Cohésion Sociale, là, c'est lui qui contribue à bâtir cette cohésion sociale au quotidien, quoi.
Et on a découvert ça assez récemment. Ça, c'est le décret qu'on vient de trouver, là, qui date du 13 juillet 2006. Le ministre de la Cohésion Sociale vient de remettre la médaille de chevalier de la Légion d'honneur au directeur des ressources humaines de la holding, Monsieur Éric de Fiquelmont.
Ça finit bien, hein? Ça finit bien, ou presque. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à tous. Merci à Thierry Le Graet, Ivan Stefanovic, Christophe Montgermont, Alain Bonnet, Stéphane Conan, Patricia Grégory et Sylvie. Ivan Stefanovic, je le rappelle, est l'auteur de L'Empire de l'eau chez Ramsay. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission La Basse J'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures ou davantage dans le temps sur le site labas.org. La
www.radio-bas.org. Technique aujourd'hui, Julien Dumont et Fabrice Desmaz. C'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission, avec Pascal Pascariello comme assistante et Christophe Imbert comme chef du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37.